La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire.
Je suis profondément fier de ce peuple de la misère. En évoquant tout ce que les parents ont souffert, mais aussi tout l'espoir qu'ils portent, parce que ces jeunes, fils et filles, d'hommes et de femmes de la misère, ils veulent se mettre à la disposition de l'humanité pour bâtir un monde de justice et un monde de paix.
La voix du père Joseph Wresinski dans la marche du monde. Nous sommes en 1987 sur l'esplanade du Trocadéro à Paris, où le fondateur d'AT des Quarts Mondes rappelle avec force le long chemin parcouru par ce peuple de la misère dont lui-même est issu et avec lequel il a choisi de partager toute sa vie. Immédiatement frappé par l'invisibilité des plus pauvres dans la France des années 50, le prêtre imagine un mouvement grâce auquel les familles les plus démunies pourraient faire entendre leur voix et lutter elles-mêmes pour leurs droits. Du combat contre l'illettrisme à l'institution d'un revenu minimum pour tous, je vous propose de découvrir une histoire méconnue et dérangeante qui commence en 1957 dans le bidonville de Noisy-le-Grand.
Noisy-le-Grand, c'était 252 familles, plus les clandestines qui étaient là regroupées à cause de la misère. Et c'est ça qui est grave, c'est que en général, les hommes se regroupent parce qu'ils ont un projet commun, bâtir une église où il y a un point d'eau, il y a du travail et les hommes se retrouvent ensemble et mettent en commun leur effort et leur volonté. Tandis que Noisy-le-Grand, ça a été réellement le lieu où toutes les misères de France et d'Europe, au fond, se sont regroupées.
Les mots du père Wresinski dans notre documentaire « Le quart monde entre dans l'histoire », écrit avec Marion Lefebvre et mis en onde par Elliot Bourrel. Premier épisode, les pauvres prennent la parole sur RFI.
Moi, ça a commencé à l'âge de 14 ans quand j'ai quitté l'école. Et dans ce temps-là, c'était les Allemands. Alors vous savez, j'allais à l'école une fois ou une fois j'y allais pas, c'était pas comme maintenant. Hein. À l'âge de 14 ans, j'étais dans les docks à Saint-Ouen en train de télécharger les péniches. Et j'allais livrer du charbon. On me mettait sur un camion, puis j'allais livrer des sacs de charbon. Hein.
La cuisine, c'était de la terre battue. Bon. Alors, aussitôt qu'il tombait de l'eau, on avait les pieds, mais on patongeait.
C'était plus vivable, quoi. Tout le monde, c'était un dépôt à ordures, c'était tout. Alors, vous voyez.
À Noisy-le-Grand, 252 familles partagent la même urgence au quotidien, subvenir à leurs besoins les plus élémentaires.
On a eu des mauvais moments. Moi, j'ai eu ma femme, elle a eu des jumelles, on était en iglo, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas d'eau à terre, on n'avait pas de lumière, on n'avait rien du tout. Et croyez-moi, ça n'a pas toujours été rose. Hein.
On vit les uns sur les autres, on a beau dire c'est rien, ça va se passer, mais vous savez, une famille qui est l'un sur l'autre, quand on veuille ou qu'on veuille pas, il y a toujours des heurts et des gros heurts. À part c'est-à-dire vivre serré, quoi. Et c'est pas quand on est bien logé, c'est quand on est mal logé que ça arrive. Ça.
Et on n'est pas les seuls, il y en a des milliers comme nous.
On n'est pas les seuls, il y en a des milliers comme nous, s'exclame cette maman de la cité d'urgence de Noisy-le-Grand. Mais qui l'écoute à l'époque? Et dans cette France de l'après-guerre, que sait-on juste de la grande pauvreté? La réponse du sociologue Serge Pogam, dont les recherches portent sur les inégalités et les ruptures sociales dans les sociétés modernes.
La situation est tout à fait paradoxale parce que on a d'un côté un enrichissement global de la société et on voit effectivement que beaucoup de personnes, des familles entières, ne montent pas finalement dans le train qui part, qui démarre et qui va permettre une ascension sociale, une amélioration des conditions de vie pour la grande majorité des Français. Donc finalement, ces familles qui vivent dans la grande pauvreté, on ne veut pas les voir parce que justement, on veut voir avant tout le progrès. On veut voir avant tout la création de richesses. On est dans des taux de croissance, il faut le rappeler, quand même très, très élevés à l'époque. On parle des 30 glorieuses. Et donc, sans l'effort de visibilisation par justement des personnes comme le père Wresinski et le mouvement ATD Quart Monde, mais aussi par l'abbé Pierre qui, par son insurrection de la bonté, essaie justement de sensibiliser l'opinion à cette grande misère persistante dans la société française. Sans cela, finalement, on serait passé à côté. On aurait considéré finalement que ce n'était pas grave, qu'on pouvait fermer les yeux face à cette misère.
Les Français veulent des maisons. Et c'est important peut-être que ce soit par la voix de quelques-uns parmi les plus douloureux, parmi les plus malheureux, parmi ceux qui précisément, pour beaucoup d'entre eux, ont été dans le malheur parce qu'ils n'avaient pas eu de maison au moment où une maison aurait sauvé leur foyer, leur joie, leur vie.
En 1954, le célèbre appel de l'abbé trouve une résonance chez Joseph Wresinski, alors qu'il est curé dans des paroisses ouvrières et rurales depuis 10 ans. Il rejoint 2 ans plus tard la cité d'urgence de Noisy-le-Grand et c'est le choc. Le père Joseph met alors sa combativité au service des plus pauvres.
Et on a trouvé là, n'est-ce pas, eh bien que, au fond, lorsque les familles avaient une difficulté, il y avait une autre difficulté cachée, au fond, une difficulté en cachait encore une autre, et que toutes les familles de Noisy-le-Grand, c'était des familles qui avaient subi un échec scolaire pour eux-mêmes et souvent pour leurs grands-parents et pour les enfants, bien entendu, qui avaient, n'avaient pas pu avoir vraiment de profession, n'avaient pas pris de métier, n'avaient pas fait aucune formation. C'était des familles qui avaient erré déjà de lieu en lieu. C'était donc des familles qui se trouvaient là, obligées, non pas par, je dirais, un projet d'espoir, mais condamnées à se retrouver parce qu'elles n'en pouvaient plus, et que la société, surtout, n'en pouvait plus, et les rejetait là.
En quête de dignité, le père Joseph crée l'association Aide à toute détresse avec les 252 familles de Noisy-le-Grand. Car la misère est l'œuvre des hommes et seuls les hommes peuvent la détruire. C'est la conviction de Joseph Wresinski, bientôt rejoint par des volontaires de tous horizons.
J'avais l'intention de rencontrer le père Joseph Wresinski parce que j'avais lu un article assez passionnant sur la façon dont il envisageait une action avec les pauvres.
Gabriel Herpicom témoigne de son arrivée au camp de Noisy-le-Grand. Nous sommes à la Toussaint 1962 et elle a 22 ans.
Donc la rue Jules Ferry, quand je suis arrivée, elle n'était qu'un chemin de boue, un chemin de terre. Et d'un côté, il y avait cet immense bidonville, je dirais presque concentrationnaire. Les gens sont enfermés dans une grisaille, tous dans un même type de bâtiment. Mais il y avait quand même il existait de la vie dans ce camp et des lieux où on pouvait se retrouver. Il y avait un petit club de jeunes qui était bâti dans une ancienne baraque militaire. Une cantine où les volontaires allaient manger, donc ils voyaient arriver des gens qui étaient d'ailleurs, qui mettaient de la vie. Dans le fond du camp, il y avait ce lieu où ni les enfants ni les adultes n'aimaient se rendre parce qu'on y allait avec un seau, c'était le vidoir. Il n'y avait pas de sanitaire. Ça, c'était la partie du camp, à l'intérieur du camp. Et puis, le père Joseph a acquis les terrains sur lesquels il va monter, ce qui sera la bibliothèque des enfants, la pré-école, le club pour les jeunes, enfin, diverses activités qui vont se développer. Mais leur intérêt, c'est qu'il y avait la rue Jules Ferry. Par exemple, quand on a fini la bibliothèque, les enfants sont venus avec des copains, ce qu'ils ne faisaient jamais. Ils ne voulaient pas montrer qu'ils étaient dans un bidonville. Ils venaient avec des copains, viens, parce qu'il y a de la documentation pour le devoir qu'on doit faire. Et donc on oubliait tout ça et on amenait des amis. Donc c'était des pas dans le monde, des pas de renouveau et des pas d'espérance.
Gabrielle Herpicom devient l'assistante du père Wrzesinski et le suivra dans toutes les expériences lancées par le tout jeune groupe d'action et de culture européenne, laboratoire du futur ATD Quart-Monde.
Eh bien, va donc aimer tes morts sous la terre. Tant que je vivrai, je ne laisserai pas une femme me faire la leçon.
Le mal s'est mis sur une race, on dirait que le malheur s'acharne sans répit sur sa descendance. Dans cette famille, le malheur engendre le malheur. Une génération ne suffit pas à libérer la génération qui suit.
Quand nous avons commencé le théâtre et qu'il fallait faire le choix d'une pièce, Catherine de Sène a eu l'idée d'amener le texte d'Antigone de Sophocle. Et elle l'a lu avec sa voix d'artiste aussi, en y mettant aussi toute l'émotion. Et Léo, elle s'appelait Léo, a été touchée vraiment jusqu'au fond d'elle-même. Et elle a dit, il faut faire cette pièce-là. Et Catherine, de son côté, a dit, mais c'est toi qui dois jouer Antigone. Et elle a porté ce rôle avec vraiment une profondeur étonnante, elle l'habitait vraiment. Et en fait, elle a retrouvé sa propre histoire dans Antigone et elle s'y est mise à fond. Et du coup, tout le reste du groupe a porté ça avec elle de la même façon, en se donnant totalement. Ce qui a fait une pièce qui a été d'une grande réussite et qui a fait la fierté de beaucoup.
La culture est au centre des premières actions d'ATD et caractérise la jeunesse du mouvement. C'est l'idée que les familles ont besoin de se nourrir autant intellectuellement que physiquement afin de reprendre leur place dans la cité. C'est aussi l'idée que le mouvement ATD doit créer son propre bureau de recherche sociale pour documenter l'extrême pauvreté sur laquelle les données sont inexistantes.
Au fond, notre souci premier, quand nous avons fait toutes nos recherches, c'était surtout, n'est-ce pas, de représenter la population valablement au niveau des pouvoirs publics, au niveau des syndicats, au niveau des partis politiques. Il a fallu que réellement nous nous battions à découvrir la population, à connaître la population, pour pouvoir eh bien, brancher d'une façon valable, d'une manière valable, avec tous ces organismes.
J'ai pris contact la première fois avec le mouvement en 1969.
Daniel Fayard rencontre ATD alors qu'il est encore étudiant en sociologie.
À une époque donc où on a eu besoin, on était contraint en quelque sorte, de pouvoir répondre aux questions des administrations et des hommes politiques. Ces personnages qu'ils rencontraient, qui avaient des responsabilités, disaient au père Joseph, mais des gens dont vous parlez, là, ils sont combien ? Ils sont combien en France, combien, etc. Ben, on était incapable de faire ça. Et ils expliquaient, comment voulez-vous qu'on mène une politique publique de lutte contre la pauvreté si on ne sait pas combien ça représente de gens. Et donc, il a fallu entreprendre des études statistiques. Et ma première contribution au mouvement, c'était de m'impliquer dans des recherches statistiques.
Réaliser les premières enquêtes au niveau local, mais aussi organiser les premiers colloques sur la grande pauvreté, c'est l'objectif d'ATD dès le début des années 60. Les premières réunions sont hébergées par l'UNESCO, mais restent confidentielles, nous dit le directeur de recherche au CNRS, Serge Pogam.
Je dois quand même souligner que ces recherches-là, dans la communauté des sciences sociales, restaient relativement marginales. Donc il n'y avait pas un intérêt manifeste des chercheurs pour étudier ces questions. En gros, la question majeure, c'était la question des classes sociales pendant cette période. Et c'était la question de la lutte des classes. L'essentiel des sociologues pensait avant tout la société dans sa globalité et dans les rapports de classe. Donc la classe ouvrière s'opposant avant tout aux dominants. C'était ça l'idée majeure. Ce n'était pas par ce sous-prolétariat que l'on allait mener les luttes. Et donc, au début des années 60, et les travaux qui sont réalisés dans cette perspective sont tout à fait pionniers.
Nous sommes en plein boulevard. boulevard Saint-Germain et trois fois les manifestants ont chargé les CRS, trois fois les CRS sont reculés. Et maintenant, je suis en plein dans la chair des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent, tandis que autour de moi les pierres tombent de tous les côtés. Vous entendez les CRS qui crient pour s'aider mutuellement, mais vraiment c'est une scène d'émeute extraordinaire.
À la fin des années 60, la jeunesse du monde entier descend dans la rue et fait sa révolution aux côtés des ouvriers. L'ordre établi est remis en question, mais pas la grande pauvreté.
Mai 68 a été un moment extrêmement difficile pour les familles parce que du jour au lendemain, avec la fermeture des postes, les bus qui ne roulaient plus, on ne recevait pas les remboursements de la sécurité sociale, on ne recevait plus rien. Il y avait le payeur des allocations familiales à cette époque, qui n'est pas venu non plus. Et donc, du jour au lendemain, les familles se sont trouvées sans argent, sans aucun moyen. Et partout, c'était le même désespoir, c'était la paralysie totale face au rien. Face au rien, on n'a rien, on n'a pas de réserve, on n'a rien près de soi. Donc, il a fallu faire des choses qu'on n'aurait jamais faites, c'est circuler dans Paris, par exemple, nous les volontaires, pour faire des quêtes, pour soutenir les familles. Et je dirais que pendant ces mois de 68, le père Joseph n'a pas beaucoup dormi. Parce que le soir, il allait sur Paris et nous allions souvent dans les facultés témoigner des familles. On a fait ce temps-là, de ce temps de mai 68, que ce soit un temps d'exception et pas un temps d'écrasement. Où il n'y avait plus d'espoir. Non, il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, c'est là qu'on a lancé le partage du savoir. Vous avez un savoir, vous avez un futur savoir de médecin, ben mettez-le à disposition de ceux qui n'ont pas de santé. C'était arriver à faire le partage. Et ça, ça a fait tout un courant sur la France, je dirais, parce qu'on a appliqué ça partout, dans tous les lieux où nous étions, et nous avons essayé de rencontrer des étudiants un peu partout. Et ça a créé un renouvellement, une prise de conscience, surtout, d'une population qui était vraiment coupée du monde et que tout à coup, les jeunes découvraient.
C'est en 68 que j'ai découvert ça, quand j'étais à l'université en train de discuter, là, n'a plus finir des nuits entières. Et puis, je vois tous ces jeunes qui étaient pleins d'intelligence, des possibilités considérables. Et puis je me disais, mais ils sont en train de perdre leur temps à faire des discussions, alors qu'il y a une ignorance crasse dans les cités, qu'il y a des millions d'enfants qui ne savent même pas lire et écrire, qui sont là, mais en train de discuter pour rien. C'est comme ça que j'ai inventé le savoir dans la rue.
Le père Joseph Brzezinski est allé à la rencontre des étudiants qui se réunissaient à la Sorbonne ou à l'Odéon ou dans d'autres lieux à Paris. Il a essayé de rentrer en dialogue avec eux et il en est revenu avec l'idée qu'il fallait lancer des bibliothèques de rue, c'est-à-dire des temps, des espaces à créer où des jeunes comme ces étudiants là, pourraient venir partager leurs compétences, leurs savoirs avec des enfants et des jeunes qui, précisément, en sont privés. Et donc, je dirais qu'il était capable de saisir toutes les opportunités dans une relation par rapport à un événement pour voir comment cette personne ou cet événement allait permettre de faire avancer son combat. Et c'est pour ça que des fois c'est à la droite, des fois à gauche, ça dépendait des gens, des événements, mais il n'a jamais perdu de vue ce qu'il a appelé la libération. Il fallait libérer le peuple des gens très pauvres, de tout ce qui pouvait les entraver, la culpabilité, la honte, etc. Et il fallait libérer le reste de la société de l'ignorance dans laquelle ils étaient de cette réalité humaine.
Merci d'écouter La Marche du Monde. Les pauvres prennent la parole. C'est le premier épisode de notre documentaire Le quart monde entre dans l'histoire. Et c'est à suivre sur RFI.
La Marche du Monde. Valérie Nivelon.
Les pauvres prennent la parole sur RFI. C'est la suite du premier épisode de notre documentaire Le quart monde entre dans l'histoire.
je devrais leur faire gravir les marches de l'UNESCO, de l'ONU, de l'UNICEF, du Conseil de l'Europe, du Vatican et du BIT pour y faire entendre leur voix.
Dès 1957 et la création du mouvement Aide à toute détresse, le père Wresinski défend l'idée du combat contre la pauvreté par les pauvres eux-mêmes. Le peuple de la misère doit se faire entendre et porter ses propres propositions pour un monde plus juste. 10 ans plus tard, lorsque mai 68 éclate, une connexion est tentée par ATD avec les étudiants en grève au sein des facultés qu'ils occupent. Mais la question de la grande pauvreté ne fait pas partie de leurs revendications. De cet échec, Wresinski tire la leçon aux pauvres de créer leur université afin de s'éduquer. C'est ainsi que 68 est un tournant pour le quart monde. Le peuple de la misère prend la plume pour transmettre ses doléances au pouvoir public. Écoutez Gabrielle Herpicom, elle fait alors partie de la trentaine de volontaires du mouvement, aux côtés de Wresinski, dont elle est l'assistante.
Donc en mai 68, nous avons pensé écrire ces cahiers de doléances en écho avec la démarche en faveur des plus pauvres qui avait amorcé Dufourny de Villiers à la Révolution française. Dufourny de Villiers, qui était un député, qui a manifesté son sens profond de la justice en disant « Mais comment se fait-il qu'une partie de la population n'ait ni nom, ni droit à la parole, ni aucun moyen de vie ?» Et donc, il a utilisé à ce moment-là le mot de quatrième ordre, l'ordre des infortunés. Et c'est en trouvant ces écrits-là que nous avons cherché de notre côté. Est-ce qu'il n'y aurait pas un mot de fierté qu'on pourrait trouver pour les familles qui sont toujours traînées dans la boue, les irrécupérables, les fainéants, comme on dirait aujourd'hui?
Et on s'est dit, mais si on s'appelait quart monde, des gens debout, des gens qui veulent s'en sortir, des familles qui refusent la misère et qui demandent aux autres de s'unir à elles pour sortir de la misère.
Quart monde, le terme est créé par le mouvement du père Wresinski et il marque immédiatement les esprits à une époque où une conscience tiers-mondiste s'est développée chez les Occidentaux à l'égard des pays pauvres, ce que souligne le sociologue Serge Pogam.
À l'époque, on s'intéresse beaucoup au tiers-monde. Il y a des mouvements tiers-mondistes qui sont très très puissants. Et donc, l'expression « quart-monde » va permettre de focaliser l'attention sur le fait que l'extrême misère dans la société française mérite toute notre attention.
Inspiré par la Révolution française et les revendications du quatrième ordre, les militants d'ATD se lancent alors dans un formidable chantier d'écriture.
Le père Joseph a créé ses cahiers de doléances. On met dedans ce qui ne va pas et ce qu'on doit chercher à changer. Et donc, très simplement, ceux qui savaient tenir la plume ont écrit. D'autres ont écrit pour d'autres. Nous-mêmes, nous avons écrit sous la dictée de famille. Et si je me souviens bien, dans les cahiers, c'était très souvent la question du logement, la question du travail, la question de la jeunesse, la question de la santé et la question des enfants. Je crois que c'est les sujets qui sont revenus le plus souvent, si j'ai bonne mémoire.
Pour pouvoir héberger ses premières universités populaires, ATD achète une cave à Paris, près de la cathédrale Notre-Dame. Une expérience novatrice, enregistrée dès ses débuts par le mouvement lui-même, pour faire entendre la voix des sans-voix. Écoutez la prise de parole d'un participant, nous sommes en 1972.
La voix des sans-voix se fait entendre à l'université populaire. Bien souvent, on est invité par un ami, comme moi, c'était le cas, tout le monde en a parlé, on dit bon, ça va rien changer. Et quand on y va, on est agréablement surpris par la manière de faire. On conserve ce qu'on a dit, c'est enregistré pour les archives, ou si on en a besoin, pour un moment ou un autre, on ressort et on a l'intégralité de la parole. Elle n'est pas tronquée comme on voit d'habitude partout. Hein. Donc c'est ça qui m'a plu, c'est original.
Au sein des universités populaires, Les familles du quart monde entrent dans l'histoire. Pour la première fois, tous les aspects de la vie des plus défavorisés sont documentés à travers les cahiers de doléances. Pour la première fois, chacune et chacun est encouragé à prendre un stylo et une feuille pour se raconter. Une expérience d'émancipation par l'éducation qui a permis à Bernard Jarling d'écrire son autobiographie, celle d'un enfant de 11 ans, élevé par sa mère divorcée dans l'extrême pauvreté des années 50. Bernard Jarling lit son livre.
Alors nous sommes arrivés dans ce bidonville, j'ai vu plein de gens et d'enfants, comme moi d'ailleurs. J'avais à ce moment-là 6 frères et 2 sœurs, plus ma mère. Il fallait aller en classe et la classe n'était pas à la porte à côté, 4 km à pied. Mais le plus terrible, c'était quand il pleuvait. On était tous trempés, on grelottait, quand on était à l'école et souvent on arrivait en retard. Et quand on était en retard, on se faisait engueuler et il fallait accepter tout cela sans rien dire. Et c'était très grave pour nous. Je ne peux pas oublier toutes ces choses. Je n'arrivais pas à comprendre dans ma tête tout ce qui s'est passé. Je me disais, nous ne sommes pas des microbes qu'on écrase comme ça. C'est pas possible, c'est pas possible. Nous sommes des enfants comme tout le monde. Je pensais trop à ça et je travaillais mal. À cause des gens qui n'acceptaient pas les pauvres. C'est une souffrance. Avoir déjà la souffrance à l'école et ensuite dans le chemin de retour à la maison.
La voix de Bernard Jarling, il a réussi à écrire son histoire, dont il témoigne en public dans l'Université Populaire. Il présente Pierre Dôme, c'est sa biographie.
Quand tu es un enfant, c'est encore pire. C'est encore pire. Parce qu'un enfant, logiquement, un enfant doit vivre sa vie, aller à l'école, jouer avec ses poupées, jouer avec les voitures, jouer avec les copains. Il ne doit pas penser seulement à dire qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Comment ma mère elle pleure tous les soirs, comment on va faire? Tu sais, quand un enfant pense à ça, tu peux pas oublier ça, c'est reste là, c'est là, dans la tête. Pour ça que moi, mon livre, ça va tout seul. Je sais tout ce qui est arrivé, je sais tout. J'oublie rien, tu vois. Et quand tu es dans la misère, c'est ça, un enfant, il peut pas s'exprimer, mais moi, maintenant, je peux m'exprimer. Mais c'est grâce à des gens comme vous, comme le père, comme les volontaires, parce que je parle comme maintenant je parle. Dans ma jeunesse, j'ai jamais pu parler comme ça. On avait peur. On n'avait pas accès à rien.
Alors que le quart monde commence à peine à se faire entendre dans une France bien portante, les chocs pétroliers de 1973 et de 1979 font bouger les lignes. C'est la fin des 30 Glorieuses et le début d'une période quasi ininterrompue de crise et de chômage de masse. Les appels aux mesures d'urgence lancés par ATD Quart Monde motivent les premières actions symboliques des pouvoirs publics. Le président Georges Pompidou propose alors de reverser au mouvement les bénéfices d'une représentation du bourgeois gentilhomme donnée en l'honneur des 300 ans de la mort de Molière.
On a eu un moment de grand silence en se disant, mais que va-t-on répondre? Est-ce que c'est vraiment nous de faire une soirée gala? C'est pas tellement notre style. Et puis tout à coup, le père Joseph Wrzynski, cet homme qui connaît bien la misère et qui sait bien les rêves des très pauvres, il a dit, il faut qu'il puisse y aller, qu'il puisse vivre un temps comme celui-là, c'est important. Et nous avons déposer une demande que le quart monde soit présent. Parce que la culture, c'est pour tous. Et de fil en aiguille, 50 personnes du quart monde ont été invitées à cette soirée. Et donc, c'est 50 places que nous avons reçues pour les familles. Et elles seraient disséminées dans le public, comme tout le monde, et non pas mises en groupe aux pionniers. Donc, c'était une soirée qui rendait honneur aux pauvres.
La 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 en cadence s'il vous plaît. La 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 jambe droite. La la la. Ne remuez point les épaules. La la la.
Ce fut un moment très étonnant pour les familles. Parce qu'elle n'avait jamais imaginé qu'elle puisse être invitée à une soirée de gala à la Comédie Française. Et je ne sais pas ce qui s'est dit sous les chaumières, mais il est certain que les mamans ont dû se poser la question, mais comment je vais m'habiller? Et je pense que tout doucement, les choses se sont mises en place et que les familles se sont senties portées vers ce moment unique et qu'elles se sont montrées d'une fierté extraordinaire.
À propos, apprenez-moi comme il faut faire une révérence pour saluer une marquise. J'en aurai besoin tantôt. Une révérence
pour saluer une marquise.
Oui, une marquise qui s'appelle Dorimène.
Oh.
Donnez-moi la main.
Le président Pompidou a demandé à Valéry Giscard d'Estaing, son jeune ministre des Finances, d'être présent à la Comédie Française. VGE revient sur l'importance de sa rencontre avec les familles et le père Brzezinski pour RFI.
Le père Brzezinski avait découvert qu'il y avait dans la société ou au-delà de la société des gens qui étaient d'une extrême pauvreté. C'était les membres de l'association ATT Carmonde. Et donc, c'était une idée assez curieuse qui est venue du président Pompidou de les inviter à la Comédie Française. Et d'autre part, d'avoir l'idée que la recette de cette soirée irait directement à l'endroit où il était installé, aux environs de Paris, à Herblay. L'idée était symbolique, un symbole curieux, mais pour moi, la chose la plus importante, c'était le dîner. À la Comédie Française, on est assis sur des sièges, des fauteuils, on regarde un spectacle, donc on n'a pas en été d'échange. Et donc, je les ai invités au ministère des Finances pour dîner.
Tout est prêt, monsieur.
À table.
Au moment de l'entracte, il était convenu que le président Pompidou viendrait saluer les familles. Par contre, Valéry Giscard d'Estaing voulait que la fête soit complète et il avait organisé au ministère des Finances une soirée et qu'il a fait avec énormément de respect et de grandeur. Il a salué chacun avant d'entrer. Ce qui m'a frappé aussi cette fois-là, c'est qu'il a pris du temps pour se mettre parmi les jeunes du Carmonde qui étaient là et de les questionner sur leur avenir, ce qu'ils espéraient, etc. Pas avec condescendance, pas en cherchant des petits mots pour pouvoir être compris par les pauvres, non. Il avait son vrai langage et sa vraie façon d'être, de se tenir. Et il n'y avait pas du tout un côté bienfaiteur, pas du tout. Il s'intéressait à leur jeunesse, il s'intéressait à leur rêve d'avenir. Et c'était ça le plus important.
Là, on parle. Il y a la conversation. Il y avait des jeunes filles de 18-20 ans, qui étaient, vous les voyez, elles paraissaient semblables à toutes les autres. Elle s'exprimait avec beaucoup de difficultés. Elle ne pouvait pratiquement pas lire, elle ne pouvait faire aucune démarche administrative. Et j'étais frappé par le fait que ceux qui avaient aux alentours de 18 ans, leur conversation était difficile. Donc j'ai eu la conscience que ce groupe existait dans la société française ou au-delà de la société française et qu'il fallait, bien entendu, aider ceux ou celles qui s'en occupaient.
Cette rencontre permet de sensibiliser le gouvernement. Il va annoncer l'adoption d'une loi permettant d'élargir l'accès aux centres d'hébergement. Quant à Valéry Giscard d'Estaing, devenu président de la République en 1974, il modernise profondément la société française et inscrit la grande pauvreté à son agenda politique. 3 ans plus tard, c'est le sujet de ses vœux aux Français.
Pour la France, je souhaite qu'elle soit, en 1977, unie, juste, active et intelligente, unie pour faire face avec toutes ses forces aux problèmes de notre temps comme elle est capable de le faire, juste pour réduire entre ses enfants les inégalités excessives de conditions ou de destin, active pour poursuivre son progrès et tenir son rang dans le monde, et intelligente. Je souhaite que la France soit intelligente en 1977 pour sortir des idées étroites, des conceptions dépassées, pour bien comprendre le monde où nous vivons et pour choisir des solutions généreuses et courageuses.
Dans son allocution de vendredi soir, le chef de l'État avait tenu à exprimer ses vœux à tous ceux qui sont les plus démunis. Cette sollicitude à l'égard des Français les plus pauvres, Valéry Giscard d'Estaing l'a manifestée hier en se rendant à Herblay dans le Val d'Oise. Il a visité la Cité du Soleil Levant, une cité créée par l'association Aide à toute détresse Quart Monde, animée par le père Joseph et présidée par Madame Antonios de Gaulle. Le président et Madame Giscard d'Estaing ont déjeuné à la table de Monsieur et Madame Macco. Monsieur Macco est câbleur dans une usine du Val d'Oise. Il gagne, allocation familiale comprise, environ 2700 francs par mois. Et avec cela, il doit nourrir ses 6 enfants.
Cette famille, je crois, a été choisie par Geneviève Antonios de Gaulle. Ça, je ne vais pas intervenir. Et nous avons eu un repas modeste, bien entendu, mais une conversation tout à fait libre et où chacun s'exprimait sans contrainte, ni d'ailleurs sans médias, avec simplement les photos de l'article. Parce que le problème dans ces actions, il faut bien voir la chose comme ça, elles sont détruites par leur exposition médiatique.
Et alors, ce qui est frappant, Valéry Giscard d'Estaing, lorsqu'on regarde ces photos de l'Artigue, c'est de voir que vous êtes vraiment très proche de cette famille Macco et que vraiment vous écoutez ce que M. Macco a à vous dire. Et ce que Macco a à vous dire, ce n'est pas forcément agréable, Valéry Giscard d'Estaing.
Moi, je n'y allais pas pour entendre des choses agréables. J'y allais pour comprendre quelle était la situation de ces personnes. Parce que ces personnes étaient coupées ou assez coupées de la société française, et je voulais savoir comment ils vivaient, comment ils le ressentaient et qu'est-ce qu'ils attendaient. Et pour cela, c'était à eux de s'exprimer, et naturellement, ils exprimaient des vérités qui étaient loin d'être agréables.
Je pense que sur certains points de vue, certaines questions que nous avons parlé, dialogué, je pense qu'il a compris. Il a vu quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Vous lui avez expliqué en détail vos problèmes ?
Ah oui, très, très clairement, très clairement. Par exemple, sur le point de vue des salaires, sur le chômage. Je travaille à la LTT, à Conflans-Sainte-Honorine. Je suis câbleur, OS2. Je gagne 180 000 par mois. Ancien franc, je parle. Pas 1,8 million, hein, malheureusement. Eh bien, nous faisons 40 heures par semaine. D'ailleurs, nous en avons parlé de ça. Il était tout surpris, d'ailleurs. Il a dit, dans une petite... petite ville comme ça, et il me dit, vous faites 40 heures. Ben, je dis, oui, monsieur le président, il faut faire, parce que sinon, si je ne fais pas mes 40 heures, on me coupe ma caisse d'allocation familiale.
J'avais le sentiment de découvrir quelque chose. C'était la découverte d'une nouvelle catégorie. C'est-à-dire ceux qui étaient au-dessous de la pauvreté. C'est le fait que cette situation vous handicape mentalement, dans votre santé, dans votre nature humaine, et que donc c'est un univers qui mérite, qui a besoin d'un effort particulier. Je souhaiterais que la société française soit d'abord juste, naturellement, mais qu'elle soit aussi généreuse. Dans une société, on doit aussi se préoccuper des autres, de ceux qui ont moins, ou de ceux qui ont des difficultés de vie, ou de ceux qui ont des problèmes de santé, ce que d'ailleurs on a largement fait depuis.
Si la parole des pauvres est devenue audible, le combat continue pour les volontaires d'ATD Quart Monde. Après avoir investi les sièges de la Comédie-Française et invité le président de la République chez eux, ils se rassemblent publiquement pour la première fois en 1977 à la Mutualité. La date coïncide avec les 20 ans du mouvement. C'est aussi la date que choisit Joseph Wrzesinski pour introduire le terme illettrisme.
C'est tous les citoyens qui doivent se sentir concernés, qui doivent refuser que des semblables, des citoyens comme eux, peuvent être, à notre époque, dans la capacité de lire et d'écrire et de compter couramment.
Quand le père Wrzesinski parle d'illettré, il veut mettre l'accent sur le fait que la lutte contre la grande pauvreté, elle va se situer sur le terrain de l'école. Il faut redonner confiance aux enfants face au système scolaire et aussi redonner confiance à leurs parents qui ont probablement aussi, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, été écartés du système scolaire, qui n'ont pas pu acquérir les savoirs élémentaires et être en capacité de les transmettre. Être illettré, c'est aussi avoir honte au quotidien de ne pas pouvoir mener une vie, je dirais, normale dans la société quand il s'agit de lire une note, de lire une affiche, de lire ceci ou de parler tout simplement de choses qui sont des choses élémentaires de la vie quotidienne. Et c'est cette honte qui renforce en quelque sorte le sentiment de ne pas appartenir à la société.
Ce que Serge Pogam montre dans ses travaux, c'est que le problème majeur des personnes en grande précarité n'est pas la pauvreté en tant que telle, mais bien le poids du regard négatif des autres. Discriminés, les pauvres se retrouvent disqualifiés et perdent la protection et la reconnaissance de la société.
C'est un problème de volonté nationale. Obliger l'État à vraiment à renforcer son autorité, mais aussi son aide à l'éducation nationale et aussi à l'éducation privée, pour que les enfants les plus pauvres puissent réellement atteindre au savoir. Au fond, il faudrait que chaque Français qui rentre à l'école puisse avoir l'ambition d'en sortir en se disant « Eh bien, j'irai à l'université ». Et ceci pour les enfants les plus pauvres comme pour les autres. Sinon, si ce n'est pas cette volonté de l'État, c'est sûr que ce défi est une utopie.
Une à une, ATD gravit les marches des institutions et porte les doléances des pauvres au cœur de la fabrique des lois sociales. Alors que Joseph Brzezinski est nommé au Conseil économique et social pour représenter le quart monde, Gabriel Oex, conseiller d'État délégué à l'emploi, rédige un rapport sur la pauvreté pour lequel il s'appuie en partie sur les études d'ATD. Nous sommes en 1980.
Enfin, il sera question à l'Élysée tout à l'heure de ce que l'on nomme les nouveaux pauvres, ceux dont s'occupe l'armée du salut ou le secours catholique ou bien le secours populaire. Le président de la République reçoit tout à l'heure leurs responsables. La crise aidant, les nouveaux pauvres sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes.
Avec le rapport OEX, on va commencer à parler de plus en plus de la pauvreté, à la fois de la pauvreté traditionnelle et ce phénomène nouveau de la nouvelle pauvreté. De plus en plus de chercheurs vont commencer à y travailler aussi. On va voir finalement un intérêt plus large pour la lutte contre la pauvreté qui va devenir peu à peu l'expression d'un dysfonctionnement social. Et c'est la raison pour laquelle le père Brzezinski va progressivement parler de précarité économique et sociale et non plus seulement de grande pauvreté. Il va progressivement considérer que le phénomène qui se produit à cette époque, dans les années 80, conduit finalement à élargir la visibilité de la pauvreté à des franges nouvelles qui étaient jusque-là bien intégrées et qui risquent finalement de connaître le sort des populations qui étaient, elles, très marginalisées et que l'on ne voyait pas jusque-là.
Nous ne sommes plus en 1957, mais bien dans les années 80. Et si la parole des pauvres est enfin entendue, aucune loi ne garantit leur droit le plus élémentaire, celui de vivre dans la dignité. Madame Willem témoigne.
Il fait froid comme tout, même la nuit, dans les chambres, il fait froid. Je dors avec ma fille tellement qu'il fait froid et trucs comme ça.
Alors pour une femme seule comme vous, avec vos trois enfants, comment on aborde l'hiver ?
C'est-à-dire que c'est le feu à charbon. Bon, quand on n'a pas d'argent, pas de charbon, ben, on n'est pas chauffé. Et vous savez, les marchands de charbon ne vont pas vous faire crédit parce que vous n'avez pas d'argent.
Alors il n'y a pas seulement le chauffage, il y a aussi les vêtements. Et quand on n'a pas d'argent, c'est difficile d'en obtenir.
Oui, parce que malgré tout, j'ai une fille, ma plus grande. Bon, elle avait des petites chaussures, mais de ce froid-là, c'est pas possible de lui mettre des petites chaussures. Parce qu'elle a froid, elle a vraiment froid aux pieds. Alors j'ai eu des bottes à caoutchouc d'une voisine, en attendant, parce que pas possible, une paire de bottes, ça coûte combien ? Ça coûte à peu près 100 francs passés. Et je ne peux pas me permettre de acheter des bottes maintenant.
En 1981, Mitterrand et l'Union de la gauche arrivent au pouvoir. Cette alternance historique, après 30 ans de gestion des affaires de l'État par la droite, ralentit dans un premier temps l'action contre la pauvreté. Le rapport OEX et ses préconisations sont oubliés et il faut repartir à zéro avec la nouvelle majorité. Et pourtant, les mesures d'urgence concernent de plus en plus de familles en France.
Mais ce froid, si ça continue et que vous n'avez pas d'argent pour acheter de charbon, comment ça va se passer pour vous ?
Bah, je sais pas, à vrai dire, je peux pas vous dire, je sais pas. Vous dire que je vis à peu près au jour le jour, je me demande, le lendemain, qu'est-ce qu'il va avoir, je sais pas, vraiment, je sais pas.
Merci d'écouter RFI, notre documentaire Le Quart Monde entre dans l'histoire. Les pauvres prennent la parole. C'était le premier épisode signé Valérie Nivelon, Marion Lefebvre et Elliot Bourrel. Un grand merci aux volontaires d'ATD Quart Monde pour avoir mis leur temps et leurs archives sonores à notre disposition. On se retrouve pour le second épisode, ce sera la semaine prochaine. Les pauvres luttent pour leurs droits. Et en attendant, vous pouvez réécouter La Marche du Monde sur RFI.fr, réagir sur Facebook, écrire, podcaster cette émission. C'est la vôtre.